Nous continuons dans notre série Sans filtre en Christ. Nous sommes libres d'en parler. Et déjà, ça fait notre troisième message. Et avec une petite phrase qu'il faut la lire chaque fois qu'on va parler de ce sujet. La liberté que j'ai en Christ me permet d'être vulnérable sans être jugé ni condamné. L'Esprit de Dieu m'encourage à vivre sans filtre et à lui être redevable dans ma vie quotidienne sous sa grâce et avec le but d'honorer Dieu. Et le verset biblique qui vient avec, c'est « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux cieux à qui nous devons rendre compte. » Le sujet de ce matin, c'est le temps de faire face. La semaine dernière, c'était briser le silence. Briser le silence. Il faut en parler. Et là, c'est le temps de faire face. C'est fait à notre pas. Dans notre temps d'être conseillé, et avec Marcella, on fait face à des hommes et des femmes qui vont raconter des choses de leur vie. Et j'ai rencontré un homme qui avait passé plus d'une année et demie et attaché à la pornographie. Il s'est dévasté. Après, on va parler pas spécifiquement de ça, mais qu'est-ce que cela, quelles sont les conséquences de cela. Il a dit qu'il pouvait le faire, qu'il pouvait tout seul sortir. Jusqu'au moment que le Saint-Esprit de Dieu l'a secoué fortement. Il a dit, tu ne peux pas seul. Je connais un homme qui s'est remis à étudier la Bible pour évader des situations, pour évader son cœur. Et les études de la Bible sont arrivées à être un idole pour lui. Donc, il a oublié dans certains sens sa famille et il s'est dévoué à faire quelque chose qui c'était bien, mais c'est devenu un idole. Je connais un homme qui lutte avec la nourriture et que cette bataille, c'est quelque chose qu'il va devoir endurer jusqu'à la fin de sa vie. Et cet homme, c'est moi. C'est pas autre que moi. Ce sont des choses qui arrivent dans toutes les personnes. C'est pas parce qu'on est ici devant, c'est qu'on est impeccable sans péché. Les seuls sans péché, c'est Jésus. Et toutes les choses que vous avez entendues, oui, ils m'ont arrivé. Et je suis maintenant dans un moment de 3 mois de perte de poids. Pas parce qu'on va souvent en vacances en août, sinon parce que j'ai besoin pour ma santé. Je suis pas malade, d'accord, je vais bien, mais je sais que ce corps, ça ne m'appartient pas, ça appartient à Christ. Et je dois honorer Christ avec mon corps aussi. Alors, c'est le temps de faire face. Et je le dis aujourd'hui, si je le dis aujourd'hui avec cette paix, c'est parce qu'avant j'avais honte. Et Dieu m'a fait sortir de ces hontes. Mais comment j'ai fait sortir, comment Dieu m'a aider à sortir de ses honte, et on le fait sans face. Alors, comment faire face? La première chose, la Bible nous dit, c'est qu'il faut renverser les faux raisonnements. Renverser les faux raisonnements. Alors, on va lire ensemble, avant de rentrer à l'explication de tout ça, la parole de Dieu dit en 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3 à 5, la chose suivante. Si nous marchons dans la chair, ça veut dire quoi? Dans la chair, ça veut dire dans les désirs de ma vie, de ma propre vie, sans écouter l'Esprit de Dieu. Nous ne combattons pas, si nous marchons dans la chair, c'est-à-dire nous marchons dans la vie normale, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, ça ne vient pas de nous, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons le raisonnement et tout auteur, le faux raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à quoi? À l'obéissance de Christ. Alors, dans ce passage-là, Paul est en train de discuter et dire, attention, Ce que je vais vous dire et pourquoi je vous le dis, c'est parce que Dieu m'a donné cette autorité de le dire. Il y avait un problème dans l'église de Corinthe qui était en train de dire, non, Paul, tu n'es pas finalement apôtre, donc on ne va pas t'écouter. Et Paul dit, ce que je vous dis, c'est pas simplement une force personnelle, c'est quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur, c'est ce que Dieu a fait dans mon cœur. Donc on va renverser les fonds raisonnements. Alors, comment ces fonds raisonnements travaillent? Peut-être que vous l'avez déjà entendu, peut-être que vous avez une autre, on va parler tout le temps et un peu plus tard des idoles. Mais comment un idole fonctionne? Un idole, par exemple, te dit, ne t'inquiète pas, Dieu te pardonne. Continue. T'as tombé? T'inquiète pas, Dieu te pardonne. Et même, il va citer 1 Jean 1, 8, que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. On se lève, on commence à marcher, on tombe encore. T'inquiète pas, Dieu va te pardonner. Et finalement, il nous fait sentir coupables chaque fois que nous tombons dans le péché. Au lieu de nous céder, cette idole qu'il se fait, il nous fait sentir coupables. Ton Dieu, finalement, n'est pas bon. Il est un Dieu fautard. Il est un Dieu qui condamne. Pourquoi? Parce que je le vois comme quelqu'un qui va me condamner, qui va me pointer. Et Dieu, c'est complètement l'inverse. Ne t'inquiète pas, Dieu te pardonne. Deuxième, tu peux vaincre car tu peux tout en Christ que te fortifie. Qu'est-ce qu'a fait l'ennemi Satan quand Jésus était tenté? Qu'est-ce que Satan a utilisé? La parole de Dieu. Il n'a pas utilisé autre chose. Tu as dit que les anges vont venir, les anges vont venir utiliser l'Ancien Testament, le livre des psaumes, pour quelque chose qui c'était vrai, mais ce n'était pas vrai pour ce moment-là. Et là, un idole va te dire, tu peux vaincre car tu peux tout en Christ que tu fortifies. La question, c'est que ces versets-là, on ne parle pas de ces moments-là. Il est hors contexte. Il y a un contexte. Pourquoi? Parce que Paul dit, Paul dit, et à ce moment-là, en Philippiens, dit, je sais vivre dans la pauvreté. Je peux tout en Christ me fortifier. Il ne parle pas d'autre chose. Il faut faire gaffe au verset qu'il utilise pour notre vie, dans le moment qu'il utilise. Mais, Joël, quand j'étais au milieu de ce moment de pornographie, je peux tout en Christ me fortifier. Mais qu'est-ce qui se passait? Je ne pouvais pas. Qu'est-ce qui se passe? L'idole me dit, Dieu n'est pas assez puissant pour toi. Dieu est un Dieu fautard. Dieu n'est pas assez puissant. Troisième chose, tu fais cela parce que tu as un manque de quelque part dans ta vie. Je m'ai apitoyé, c'est un mot français, c'est ça? Je m'ai apitoyé de moi-même. C'est ça? Apitoiement? Pauvre de moi, j'ai quelque chose qui me manque. Et l'idole vient te dire, oui, tu as quelque chose qui manque, donc fais-le. Et tu dis la parole de Dieu, Joël, c'est très bien. Mais je passais des heures, et ici vous pouvez poser la question à ma femme. Des heures à étudier la parole de Dieu. C'est quelque chose de bien? Oui. Est-ce que ça remplissait pas mon cœur, ça remplissait ma tête? Il n'y avait rien qui passait ici, tout ici. Et c'est quoi? Cette idole me disait, Dieu n'est pas bon avec toi finalement. Dieu n'est pas bon. Et c'est tout ce type de raisonnement, faux raisonnement, nous mène à vivre en quoi? En solitude, en hypocrisie, à faux semblant, et sans pouvoir profiter de l'immensité de la grâce de Dieu. Ce que je vous suis en train de dire, c'est quelque chose que j'ai dû subir. Je dis subir parce qu'une idole, ils sont méchants. Ils commencent tout doux, mais finalement, son paiement, c'est très dur. C'est très dur, c'est très cher. Le diable connaît nos faiblesses et nos failles. Il sait où toucher pour nous faire mal. Écoutez ce que la Bible dit. Et or, la loi est intervenue pour que l'offense abondait. Donc, quand Dieu avait donné la loi par Moïse, il est intervenu pour nous montrer qu'on était pécheurs. Mais quand le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, quand le péché a abondé, la grâce a surabondé, n'importe la, si on peut dire comme ça, la grandeur ou la taille du péché, Dieu est encore plus grand. Dieu est encore plus grand. Nous renversons les faux raisonnements avec des armes puissantes données par Dieu. C'était marqué sous le texte. C'est que quelles armes? Et Éphésiens chapitre 6, c'est quoi? On parle de quoi? De son armure. Son armure. Et son armure nous aide à quoi? À renverser des forteresses. Alors, je vais laisser vous lire Éphésiens chapitre 6. Il y a quelque chose qui est très intéressant. Et versets 16 et 17. Prenez par-dessus tout, c'est là le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17. Prenez aussi le casque de salut et l'épée de l'esprit qui est là. Comment je peux renverser des faux raisonnements et renverser les forteresses par le renouvellement de mon Romains chapitre 12, verset 1. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est qui? Je n'ai rien inventé. Tout ce que je suis en train de dire, je le savais par cœur. Mais tant que Dieu n'a dit basta, c'est le temps de passer à autre chose. C'est le temps de faire face, mais pas tout seul. Je vais s'éteindre avec toi. Et là, je trouvais le pardon, je trouvais la grâce de Dieu, je trouvais un autre élan pour ma vie. Je trouvais un autre. J'ai compris d'une autre façon l'amour de Dieu pour moi. Et ça, c'est la grâce de Dieu avec nous. Avec moi. Il faut renverser les forteresses. Chaque fois qu'on décide de laisser un idole commencer à faire sa maison dans notre vie, il commence à créer des murs. Et des murs, c'est tellement grand qui va créer une ombre. Je vais essayer de regarder Dieu, mais finalement, ce que je vais voir, c'est un mur. Et Dieu dit, il faut renverser les forteresses. Et mes forces à moi ne sont pas suffisantes. Encore une fois, surtout l'esprit, l'épée de l'esprit et la parole de Dieu. Pourquoi on dit la parole de Dieu? Genèse chapitre 1, 5. Genèse chapitre 1, il dit, et Dieu a dit que la lumière soit. Et Dieu a dit, et Dieu a dit, et Dieu a quoi? A dit. La parole de Dieu est quoi? Dieu de rien peut créer le tout. Dieu peut transformer avec sa parole toutes choses. Avec quoi? Avec sa parole. Sabina, la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, il nous avait dit, quand j'ai commencé à laisser la parole de Dieu me parler, il y a une transformation. C'est pas il existe des livres et des bouquins qui parlent d'une question positive, positivisme. Il faut chercher en soi. Non, ce mensonge complète. En soi, on est des enfants et rachetés par Dieu. Et ça ne va pas changer. Mais je ne peux pas chercher au moins pour trouver la solution. Je dois trouver en Christ et rien d'autre. Mais Dieu dit, je veux faire face avec toi. Ce n'est pas fichu, pardon pour le mot. Ce n'est pas fini. Tout n'est pas perdu. Parce que les idoles nous font penser à ça. Et faire renverser des forteresses, parfois ça semble insurmontable. Voilà. Mais en Christ, rien peut tenir de vous. Lui, et rien pour lui faire face, car tout se démonte à son seul regard, à sa seule parole. Rien ne peut lui faire face. Quels sont les faux raisonnements qu'on est en train d'avaler, nous, dans la vie aujourd'hui? Quelles sont les idoles dans lesquelles, aujourd'hui, on les prête attention, on les donne, on se met devant, on se met à genoux devant ces idoles? Évidemment, on ne le fait pas physiquement, mais mentalement, on lui prête toute notre attention. La première chose que, pour faire face, il faut renverser les faux raisonnements. La deuxième chose, c'est qu'il faut démasquer les idoles. Démasquer les idoles. Écoutez ce que la Bible dit en 1 Jean, chapitre 5, verset 19 à 21. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître la vérité. Et nous sommes dans le véritable. Et en son Fils Jésus-Christ, c'est celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, il dit quoi? Gardez-vous des... Pourquoi il n'a pas mis autre chose? Pourquoi il n'a pas mis, il faut faire gaffe aux faux prophètes? Pourquoi on n'a pas mis autre chose que gardez-vous des idoles? Pourquoi pas qu'ils soient en puissance? Quand nous nous tendons notre main, ils ont une puissance. J'ai fait une définition d'idole. Une idole est une chose qui a de l'autorité sur ma vie ou qui contrôle ma vie et prend la place de Dieu. Il prend la place de Dieu. Quelles sont les idoles qui ont du pouvoir sur notre vie? Quand est-ce que vous l'avez donné la place à Dieu qui mérite? Quand est-ce que cette idole, par exemple, je vais donner des exemples simples, encore une fois. Quand est-ce que l'argent est devenu un Dieu impitoyable qui dirige votre vie et vous maintient en angoisse à la fin de mois? Quand est-ce que la pornographie a aidé quelqu'un à avoir un concept réel de la relation sexuelle? Quand est-ce que la nourriture vous a aidé à vous sentir mieux dans votre communion avec Dieu? Quand? Le livre de Jérémie, mes amis, le livre de Jérémie, chapitre 10, la Bible dit, c'est insensé d'écouter ces idoles. Il dit à Jérémie, il est en train de parler à propos d'Israël, mais vous êtes fous, vous êtes en train de créer des idoles en bois. Qui n'y parle, qui n'y voit, qui peut rien faire pour vous. Il dit comme ça, il faut que vous réfléchissiez. On vient de lire l'intelligence, le verset et avant, le verset 20, de l'intelligence. Les idoles vont nous enlever l'intelligence pour nous faire sortir coupables, nous faire sortir, pardon pour le mot, la Bible l'utilise, stupides. Quand les idoles sont démasquées, ils vont essayer de vous soumettre en vous tenant encore une fois pour vous faire tomber. Mais la grâce de Dieu est présente pour dire à voix haute, éloigne-toi de moi dans le nom de Jésus. Alors, pourquoi il faut démasquer les idoles? Vous vous souvenez Moïse est monté, il y a un film qui s'est fait à ça, de Moïse. C'est l'arche de Noé, mais aussi on parle de que Moïse, et non, pas Noé, je parle de Moïse, pardon, n'importe quoi. Et Moïse, on se rappelle de Moïse parce qu'il a fait traverser la mer Rouge au peuple d'Israël. Mais ici, Moïse a reçu quelque chose. Vous vous souvenez, c'était quoi? Les 10 commandements. Les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, on dit quoi? Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont au haut dans le ciel, qui sont bas sur la terre, qui sont dans les eaux, et plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu quoi? Jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième, la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Je suis un Dieu jaloux. Jaloux dans le bon sens. Il n'y a pas une jalousie méchante de la part de Dieu. Dieu ne peut pas pécher. Mais Dieu veut ses communions avec moi. Dieu ne veut pas la partager avec aucune chose. Et en plus, ce sont les choses qui n'ont pas de véritable valeur pour notre vie. Qui sont là pour nous quoi? Pour le détruire. Pour le détruire. Quand les idoles sont démasquées devant le Seigneur, ils vont partir en nous laissant briser et casser. Car leur salaire, c'est toujours cela. Nous laisser casser et briser. Ils te laissent détruit et avec le sentiment d'avoir perdu le temps. C'est pourquoi Colossiens chapitre 3 dit quoi? Faites donc mourir les membres qui sont sous la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Faites mourir. La semaine dernière, Sabrina utilisait un verset. Quand quelqu'un est au Christ, toutes les choses sont devenues nouvelles. Oui, Dieu nous a placés en Christ, on n'est plus condamné. Mais Dieu continue à nous transformer. Et ça, c'est Paul qui écrit, il dit, faites donc mourir. Ça veut dire quoi? Qu'il y a encore un cheminement à faire en Christ. Et si je dois faire mourir, ça veut dire que j'ai besoin de l'aide. On va arriver à ça tout à l'heure. J'ai besoin d'aide pour vaincre ces idoles. Mais il faut les démasquer. Je ne veux plus cette chose, que la Bible soit un idole pour moi. Je ne veux plus. Et ça m'a coûté. C'était très difficile pour moi de dire, Seigneur, je veux étudier la Bible, j'aime bien étudier, c'est la Bible, c'est toi. Mais je voyais que ma relation avec ma famille, ce n'était pas la même chose que j'avais avant. Et toute chose qui ne provient de la foi, la Bible dit, c'est un péché. Je suis en train de délaisser mon premier ministère, qui était ma famille. Faites mourir. Un idole bloque le regard de Christ et sa grâce. C'est là le pourquoi que Paul dit de ramener captives nos pensées à Christ. À Christ. Pas à ma connaissance de Christ, à la vérité de Christ. Je ne sais pas si vous l'avez fait déjà, mais si vous lisez un proverbe, un chapitre de proverbes par jour, vous allez voir comment votre vie va changer tous les jours. Pourquoi? Parce que Dieu va utiliser ce que vous avez lu pour vous transformer ce moment-là. Il va utiliser un mot, une phrase, un verset entier, un passage entier pour dire, voilà Joël, je t'ai dit, je te mis ce passage-là aujourd'hui devant toi pour te transformer. Et au lieu de rester seul, je me sens accompagné. Au lieu de rester cassé, je me sens aidé. La grande différence avec les idoles, quand je les démasque, c'est qu'ils n'ont aucune puissance. Ils semblent qu'ils ont une puissance, parce que moi, je les ai laissé la place. Il faut les démasquer. Il faut renverser les faux raisonnements. Il faut démasquer ces idoles. Mais surtout, il faut restaurer la communion avec Dieu. La Bible dit en Proverbe 28, versets 13 et 14, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme ou la femme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. » Encore une fois, ce ne sont pas mes paroles, c'est la parole de Dieu. Alors, comment restaurer la communion avec Dieu? Parce que, évidemment, quand je suis, quand je donne ma vie, quand je loue, pardon le mot, mais c'est le mot correct, quand je loue un idole, je peux avoir deux. Je ne peux pas mettre au même niveau Dieu et un idole. Je suis là dit par rapport à l'argent. Je ne peux pas avoir l'argent, aimer l'argent et Dieu au même moment. C'est impossible. Parce que je connais plus un qu'un autre. Pour restaurer ma communion, la première chose, je dois reconnaître sa majesté, qui est Dieu. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y a point d'autre. Pour moi, je dois reconnaître sa majesté. Souvenez-vous, Jésus, quand les disciples lui ont dit, après nous en prière, en Seigneur prière, c'est quoi la première phrase? Notre qui est aux cieux. Que ton nom soit. Ce n'était pas dit demande en premier, demande, c'est bien pardonne-moi. Je reconnais la majesté de Dieu. Je reconnais qui est Dieu pour moi. Il est mon Père. Il est mon ami. La Bible le dit. Si je ne peux pas reconnaître sa majesté, je ne peux pas bien commencer ce processus de restauration. Écoutez bien, processus de restauration. Deuxième, je dois reconnaître mon tort. Mon tort. Fut-il jamais un Dieu qui essayait de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, à main forte et à bras tendus et avec des prodiges, des terreurs comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu en Égypte, sous vos cieux, tu as été rendu témoin de ces choses que tu reconnais, afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y a point d'autre. Afin que tu reconnaisses, afin de reconnaître que tu es Dieu, qu'il est Dieu. Je dois reconnaître ce que j'ai fait. Je dois reconnaître ce que Dieu a fait, mais je dois reconnaître ce que moi j'ai fait. Dans le Nouveau Testament, Jésus va raconter une histoire de fils prodigue. Quand le fils revient, il dit quoi? J'ai péché contre
toi.
Contre le ciel et contre toi. Il a reconnu au premier qui? Dieu. Il a fait contre la personne. Vous voyez, ce ne sont pas des choses que j'invente, ce sont des choses qui sont écrites pour nous laisser un exemple pour pouvoir grandir en Christ. Je dois reconnaître que je suis en tort. Et cela demande beaucoup, beaucoup de valeur. Beaucoup de puissance, mais pas la mienne, de la part de Christ qui agit puissamment en moi. Ou parce qu'on a honte de reconnaître. Et c'est à cause du péché. Reconnaître sa majesté, reconnaître notre tort. Troisième, chercher de l'aide. Chercher de l'aide. Les idoles nous laissent seuls. Avec une honte insurmontable et avec l'idée que, t'inquiète pas, tu vas rester dans ces trous pour le reste de ta vie. Et c'est là où Dieu a préparé des gens dans l'Église pour nous aider. La Bible dit en Galates, écoutez, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, reversez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux des uns des autres et vous accompliez ainsi la loi de Christ. Aimez mon prochain, aimez votre prochain comme vous-même. Si quelqu'un pense être quelque chose, qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet à se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Il y a des gens qui sont prêts à nous mener vers Dieu, qui sont fidèles à Dieu, qui sont prêts à nous faire cheminer dans cette chose. dans le, la chose on est en train de lutter. Semaine dernière, on parlait de briser le silence. Et dire, il y a des gens qui sont ici capables de nous aider à avancer, à démasquer les idoles qui sont dans le mari. Mais vous savez, c'est pas là, c'est pas, je ne peux pas le faire tout seul. C'est Dieu qui doit m'aider. Parce que par ma puissance, je vais essayer tout seul à la maison en cachant tout ce que se passe. Reconnaître sa majesté, reconnaître notre auteur, chercher de l'aide. Mais une fois qu'on a cette aide, c'est quoi se vivre en conséquence à la grâce qui nous a été donnée. Romains chapitre 13, il y a la chose suivante. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur, du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Voici donc ce que je dis, et ce que je, ça s'est fait, c'est que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étranges à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de leur endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils s'en sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris de Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit, à vous dépouiller à égard de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Quand on commence à être revêtu de la part de Dieu, la vérité va venir tellement forte dans mes pensées qu'il va renverser les forteresses. Il n'y a aucune chose qui tient de vous devant la vérité de Dieu. Et la seule vérité que trouve en Dieu, c'est sa parole appliquée dans ma vie. Je ne peux pas dire « Dieu ne m'aide pas ». C'est un mensonge. Je veux m'aider. Parfois, je ne veux pas son aide. Ou je n'aime pas son aide. Parce que je sais que je devrais lâcher quelque chose. C'est le temps de faire face. C'est le temps de faire face. Pour terminer, je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est une peinture qui se trouve dans le Louvre. Il s'appelle, comment on dit checkmate en français?
Échec et mat.
Pour ceux qui jouent aux échecs, vous savez de quoi c'est pas. C'est qu'il n'y a plus de solution. Et donc, cette peinture te fait ça. Donc, le peintre a voulu dire, là, c'est la représentation de ceux qui gagnent. Et en rouge, il a représenté le diable. Et la personne qui est en train de dire, mince, j'ai plus de solution. L'histoire raconte qu'un groupe guidé par une personne de Louvre, ils sont en train de marcher, et cette personne-là, donc une personne de ce groupe-là, est en train de passer par là, il voit cette peinture et il s'arrête là à voir. Et le groupe continue à marcher. 15-20 minutes se passent et le guide, comme il va regarder tout le monde ensemble, dit ben, il me manque une personne. Donc il fait le chemin de retour, il le trouve là, en train de regarder cette peinture-là. Échec et mat. Il dit, bon, qu'est-ce que vous faites là? Bon, je suis en train de regarder ça. Vous savez pas qui suis-je? Sincèrement, non. Je suis un des champions mondiaux d'échecs. Il y a quelque chose qui me frappe dans ces peintures-là. Il dit, il faut changer le nom de cette peinture. Ça, c'est pas possible qu'il s'appelle échec et mat, parce que le roi a encore un mouvement à faire. Mes amis, le roi n'a pas fini. Le roi, vous savez ce qui se passe. Échec et mat, ça veut dire qu'il n'a plus de solution. N'importe où bouger les pièces, il n'y a pas de solution. Et là, je dis, j'ai encore une solution pour vous. C'est pas fini. Même si le diable, il met sa main comme ça, il dit, c'est fini. Non, c'est pas fini. Le roi a encore un mouvement. C'est sa grâce. C'est son amour, c'est sa patience. La chose qui va vous faire venir à lui. Mais c'est le temps de faire face. C'est le temps de faire face. Dieu a fait face. Jésus a fait face à des situations compliquées. Et savez quoi? Jésus a dit, mais mon Père est toujours avec moi. Il m'a jamais laissé seul. C'est Jésus qui le dit. Le roi a encore un mouvement de plus à faire. Ce n'est pas fini. Car Dieu est avec moi, nous pouvons faire face aux idoles grâce à sa présence en nous. Grâce à sa présence en moi. Si sa présence n'est pas en moi, je ne peux pas faire face. Je ne peux pas faire face. Si Christ n'est pas mon Dieu, si Christ n'est pas mon Sauveur, je ne peux pas faire face avec sa puissance en moi. Donc si ce matin, Jésus n'est pas votre roi, vous n'avez jamais demandé à Jésus de venir être votre Sauveur, c'est le moment de le faire. Parce que sinon, ça va être vos efforts qui vont se terminer dans un échec. Mais si Dieu est votre Dieu, Dieu dit, mon Père ne m'a jamais laissé seul. Notre Père ne s'est jamais laissé seul. Dit, je suis avec vous. Il dit aux disciples, je suis avec vous jusqu'à la fin. Et la fin, le mot, la Bible, il utilise quoi? Éternel. Il n'y a pas de fin. C'est super. C'est difficile à comprendre, ce mot-là. Je suis avec vous jusqu'à la fin. Et la fin, il n'y a pas de fin. Je suis avec vous jusqu'au moment où tout. Ce monde va être fini. Et après, je continue avec vous. C'est le temps de faire face. Avec Christ ou sans Christ. Avec sa grâce ou sans sa grâce. Avec son Fils Jésus qui vit en moi ou sans son Fils. Et chacun, et chaque de ces deux chemins a une fin. Une est heureuse. Et l'autre, c'est un échec. Heureuse avec des choses, de moments qu'on est tombé. Ici, je vais tomber. Je vais me relever, mais sans avoir un sentiment d'avoir réussi. Et c'est à vous de voir dans votre cœur. Pour terminer, je vais vous demander de fermer vos yeux. On va prier ensemble. Et c'est le moment de se demander. C'est le moment de se demander si Jésus est votre Dieu, si Jésus est votre Sauveur. Si vous n'avez jamais, écoutez bien, si vous n'avez jamais demandé Jésus d'être votre Sauveur, aujourd'hui Dieu vous tend la main pour dire, viens, je t'aime. Je t'aimais avec mon fils Jésus, Dieu dit ça. Je t'aimais avec une croix. Je t'aimais en versant mon sang pour toi. Je t'aimais en ressuscitant. Je t'aime en te cherchant tous les jours. Car Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que si tu veux croire, tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Mais Dieu prouve son amour envers toi, envers moi, envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Si tu n'as jamais fait ça, tu peux laisser dire, Seigneur, me voici. Voici mon cœur. Je, place ma confiance en toi. J'ai besoin de toi. Mes péchés bloquent complètement avant communion directe avec toi. Mais ta croix, ton sang et ta résurrection ont changé complètement, veulent changer complètement ma vie. Et je veux accepter cela. Je ne peux rien faire sans toi. Si vous l'avez fait cela dans votre cœur, je vais vous inviter à la fin de notre temps ensemble à venir me voir, ou ma femme, ou Gabriel, ou Philippe, et dire, moi j'ai fait ça, et j'ai besoin d'elle. Si vous avez déjà connu Christ, Dieu veut t'encourager. Dieu veut renverser les fonds rassemblants. Dieu veut que nous puissions, que tu puisses démasquer les idoles. Dieu veut restaurer sa communion avec toi. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Vous pouvez maintenant ouvrir votre cœur et dire, Seigneur, voici ce que tu es en train de lutter avec. Et je veux en ton nom faire face. En ton nom me lever et dire, dans le nom de Jésus, c'est fini dès aujourd'hui. Et je commence ce processus de restauration. Seigneur, je te remercie parce que quand on veut se lever comme ça, Satan aussi écoute. Et Seigneur, il va faire tout le possible pour qu'il puisse continuer dans ce chemin, Seigneur, de douleur, de solitude, de honte. Ils vont continuer à nous blesser. Mais Seigneur, tu es venu pour nous donner la vie en abondance. Tu es venu pour nous montrer que ta grâce surabonde et qu'en ton nom et par ta puissance, nous pouvons être libérés. Mais Seigneur, tu nous demandes de faire face. Merci Seigneur pour ta grâce et merci Seigneur pour ton amour. En ton nom. Amen.